Nous avons chanté tu m'apprends à vivre l'amour. Donc j'espère que vous avez compris que Dieu n'était pas étranger à l'acte conjugal. Il nous apprend à vivre l'amour. Et la dernière fois, j'ai voulu surtout insister sur le fait que c'est la lumière de la connaissance de Dieu qui permet de sentir, comme on dit dans le renouveau, de sentir la justesse des actes, des gestes. Il y a une sensibilité qui s'affine par la connaissance de Dieu. Ça, c'est des choses qui se vivent plus qu'elles ne se prouvent. Et je repensais, et par rapport à tout ce que j'ai dit, je repensais à une affirmation qui parcourt tout le pontificat de Benoît XVI jusqu'ici, qui vient bien dire que la question fondamentale, c'est toujours la question de Dieu. Écoutez bien, aucun autre problème humain ne pourra être vraiment résolu si Dieu ne revient pas au centre de notre vie. Nous avons un pape qui a le sens du primat de Dieu. Alors, ce primat de Dieu, je l'ai vu sous l'angle de la lumière la dernière fois, et j'ai insisté sur l'aspect d'intégration des passions, comme on dit charnelles, sans qu'il y ait rien de négatif là-dedans, dans ce qu'on peut appeler une passion spirituelle, c'est-à-dire cette attraction plus forte et plus profonde encore que l'on éprouve quand on est vraiment en contact avec la personne de l'autre, créée à l'image de Dieu. Et on aura l'occasion de redire, mais dans l'acte conjugal, donc on est à pleine union totale, mais aussi, c'est-à-dire aussi à une joie totale, qui n'est pas simplement la joie du toucher des corps que Dieu a voulu, mais aussi la joie des touchés de l'esprit des cœurs. Alors, pourquoi on a présenté un idéal aussi élevé qui pourrait peut-être décourager certains? Pourquoi j'ai insisté là-dessus? Parce que, d'abord, il y a des personnes qui ont une sexualité qui fonctionne bien, et dont ils auraient tendance à se contenter sans parvenir à vivre jusqu'au bout cette rencontre des personnes dans l'acte conjugal. J'en parlais avec Josiane, il me semble que cette union plénière, telle qu'on l'entrevoit à travers les Saintes Écritures, cette communion des saints, mais une communion des saints vécue charnellement, c'est comme un trésor caché pour beaucoup. Et le fait de dévoiler ce trésor est important parce que c'est l'espérance de vivre quelque chose de plus fort encore, et de faire de la vie sexuelle une aventure sans limite, c'est-à-dire on peut toujours aller plus loin. C'est le fait de vivre la vie sexuelle comme une aventure qui peut évidemment permettre d'avancer et de faire les efforts nécessaires, le chemin, comme dirait Benoît XVI, de purification, de guérison et de maturation de l'éros, qui va donner toute sa beauté à cette vie commune. Cela dit, moi j'insiste sur le fait que malgré tout, cette union des deux, reste l'union de deux créatures. C'est pas l'union à Dieu elle-même. Et donc, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à vivre cette union totale propre au mariage que nécessairement on a raté sa vie. La réussite de notre vie, essentiellement, fondamentalement, c'est la profondeur de notre union à Dieu. Donc, il ne faut pas se décourager non plus du fait de difficultés qui fait que bon, on n'est pas particulièrement heureux de sa vie sexuelle. Il ne faut pas se laisser enfermer et retomber dans le piège de la divinisation de l'éros. On n'est pas là pour ça. Mais il y a une ligne de crête que j'espère pouvoir trouver, vous voyez, entre le fait de relativiser malgré tout cette réalité, si belle soit-elle, si belle puisse-t-elle devenir, et le fait en même temps de ne pas y renoncer à avancer sur ce chemin. Est-ce que je m'exprime bien? Ça va les coups, vous confirmez?
On reviendra sur la ligne de crête.
On reviendra sur la ligne de crête. Si je dépasse la ligne en question, je vais être promptement corrigé. Josiane, vous vouliez dire
Oui, la ligne de crête, c'est vrai qu'elle n'est pas facile parce qu'on est dans une société qui valorise beaucoup la sexualité et on nous dit à peu près partout que la vie de la santé, l'épanouissement personnel passe vraiment par la sexualité.
Et l'autre micro peut-être se prêter pour
c'est plus compliqué du coup. Et donc il s'agit de ne pas se laisser enfermer dans cette idée, ce que je disais déjà la dernière fois, d'une performance. La sexualité, c'est aussi et surtout la rencontre de l'autre, et elle s'inscrit surtout dans le lien à l'autre. Et notre travail de personne, en couple ou pas d'ailleurs, est de travailler sur ce lien à l'autre.
Oui. La profondeur de l'amour en chacun de nous se mesure d'abord à la profondeur de notre ouverture, une ouverture qui ne peut se vivre pleinement que si elle est d'abord ouverture à Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut me sortir vraiment de moi-même, parce qu'il n'y a que Dieu, encore une fois, qu'on peut aimer plus que soi. C'est l'extase avec un grand E. Et je dirais que on peut vivre une profonde ouverture à Dieu et à l'autre sans ressentir et pouvoir jouir de l'amour d'une manière sensible. Il faut tendre à une intégration de tout l'humain. Mais si cette intégration n'est pas réalisée, si la rédemption du corps, comme dit saint Paul, de toute façon ne s'accomplira jamais pleinement sur terre, il faut attendre la résurrection. Mais si cette rédemption du corps, on n'y parvient pas jusqu'au bout, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas parvenir jusqu'au sommet de la montagne de l'amour. Par la profondeur du renoncement à soi, de l'ouverture à Dieu et à l'autre. Et dans ce sens-là, ça a du sens, voyez, de se donner physiquement à son conjoint, sans éprouver nécessairement et systématiquement d'attirance physique, enfin d'attraction sensible, si c'est vécu dans cet esprit d'abandon à Dieu, voyez, et en définitive de don de soi en profondeur à l'autre. Mais un don de soi qu'on n'arrive pas à vivre avec tout l'élan de l'être. Et c'est, l'amour, plus il est divin et moins il est sensible. Enfin, moins il se laisse mesurer par le sensible. Mais c'est sûr que c'est une perfection supplémentaire quand l'amour divin intègre toute la sensibilité. C'est ça dont j'ai essayé de parler la dernière fois. Mais ce n'est pas une perfection nécessaire à notre salut éternel et à la réussite en profondeur de la vie de couple.
Alors nous, on trouve qu'il y a en même temps un danger à dire ça, parce que on pourrait se satisfaire, enfin on pourrait, en cas de difficulté, parce que dans l'apprentissage de la relation de couple, il y a tout un apprentissage pendant lequel on peut rencontrer des difficultés de tous les genres, et en entendant le discours de Louis, je me disais, bon, oui, mais on pourrait aussi se dire, quelque part, se dire, bon, ben, la sexualité, c'est pas si important que ça, et puis tant pis si j'y arrive pas. Et nous, on se dit vraiment, s'il y a des difficultés, il faut vraiment chercher, et il y a ce qu'il faut. Enfin, soit se faire aider, soit en thérapie, soit je sais pas, voir un sexologue ou voir des gens compétents. Nous, on a vu, par exemple, dans les sessions d'Aline Minnesota, des gens, beaucoup de gens retrouver vraiment un élan et retrouver un équilibre après avoir beaucoup galéré. Donc moi, j'ai tendance à dire, si vraiment ça marche pas, faut vraiment chercher. Quoi. Faut pas. C'est important aussi de cet équilibre et cette harmonie dans le couple. Est-ce que vous êtes d'accord?
Moi, j'ai tendance à dire qu'il veut faire grand, je fais la bête. Enfin, je veux dire que... je veux dire par là que, autant sur le plan spirituel, je rejoins complètement, évidemment, ce que dit Louis. Mais en même temps, pour avoir rencontré, pour avoir eu ici ou là des occasions de rencontrer des gens qui renonçaient complètement dans ce domaine-là, et voilà, qui vivaient comme frères et sœurs, avec une certaine résignation. Enfin, je ne sais pas comment ils vivaient d'ailleurs exactement, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, parce qu'on sort de la fameuse ligne de crête qu'on a évoquée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'évidemment, dans ce domaine-là, il y a pas à en faire un absolu, ça c'est certain. Et en même temps, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'équilibre humain et de l'équilibre du mariage. D'ailleurs, saint Paul dit, à un moment donné, dans une citation que vous connaissez mieux que moi, mais que c'est qu'on peut renoncer d'un commun accord à avoir des relations pour un temps. Et donc, si on lit bien saint Paul dans de façon complète, c'est qu'il est sage. Bon, et donc, les circonstances mettant des personnes face à une situation où, de façon très durable, ils n'arriveraient pas à avoir une harmonie. Nous, il nous semble humain. Ben, on s'engage nous deux, et je pense que on pourra donner la parole à d'autres. Il nous semble sage de ne pas en rester là. Parce qu'en plus, ce Seigneur veut notre bonheur, me semble-t-il, et que quelque part, il veut notre bonheur aussi dans ce domaine-là, et donc c'est pas quelque chose d'annexe, parce qu'il veut notre bonheur dans toutes les l'acception du terme, sur le plan physique, le plan psychique, le plan spirituel, etc. Mais c'est toujours un peu délicat de parler de ce sujet.
Ben en fait, on est d'accord, hein. On est d'accord, simplement, on a du mal à dire tout à la fois. Hein. C'est le problème d'un discours qui ne peut pas... tantôt on insiste sur un aspect, tantôt un autre. Moi, je pense à certains couples où, de fait, il y a un blocage très profond, et que malgré tout, les progrès de la sexologie et tout ça, il y en a un des deux qui ne vit pas les choses comme il aimerait les vivre. Et c'est ce que je dis, est un message d'espérance pour cela aussi, mais ce n'est pas une invitation à la résignation. Pour une raison aussi spirituelle, c'est-à-dire qu'en réalité, sur ce terrain de l'union charnelle et de l'intégration de l'humain dans notre humanité tout entière dans la charité divine, sur ce chemin, Dieu nous attend, et l'effort pour, je dirais, vivre cette guérison de l'éros est en même temps a un sens comme un chemin de sanctification. C'est un chemin sur lequel on va pouvoir aussi se rapprocher de Dieu, si on vit ce chemin de guérison en profondeur. Parce qu'on ne sent pas simplement de trouver des techniques, enfin, ou de chercher à stimuler un plaisir d'une manière un peu artificielle, mais si on vit les choses en profondeur, c'est-à-dire sous l'angle de la profondeur de l'union, de fait, c'est un chemin de sainteté. Et donc aussi pour ça, on n'a pas à renoncer à ce chemin-là.
Je crois que c'est difficile, on ne peut pas faire de généralité, en fin de compte. Il n'y a aucune, je dirais, entre guillemets, norme. Et que ce qui est important, c'est le sens que cela peut avoir pour la personne, pour le couple. Ça, c'est vraiment fondateur, même s'il y a des impossibilités ou des grandes difficultés.
J'ai remarqué, en tant que confesseur, là, je parle, hein, il y a des personnes qui ont l'impression de ne pas pouvoir vivre là, précisément parce qu'ils ne se sentent pas assez de dynamisme, d'élan et tout ça. Je pense que si on vit les choses en étant conscient qu'on accomplit, je dirais ainsi, au-delà des sentiments, on accomplit un véritable don de soi dans l'abandon à Dieu, on peut peut-être trouver à ce moment-là plus de force pour surmonter certains états de fatigue ou de lassitude. En tout cas, de penser que la relation n'est pas simplement mesurée par le désir que j'en ai, mais qu'elle est aussi de l'ordre quelque part d'un devoir, comme on disait avant, le devoir conjugal, ici je cite saint Paul, que le mari remplisse son devoir d'époux envers sa femme, de même la femme envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est le mari, de même ce n'est pas le mari qui dispose de son propre corps, c'est la femme. Mais évidemment, si ça devait devenir à chaque union une véritable corvée, c'est là où je rejoins Anne-Claire Philippe, c'est-à-dire il faut prendre les moyens de se faire aider. Mais toujours dans cette même perspective, que ça fait partie du chemin de sainteté. Voilà. Des fois, c'est les femmes qui font pas tellement d'efforts. Moi, c'est les hommes qui font pas tellement d'efforts. Ils se foulent pas. Moi, je suis pour prêcher l'effort, vous voyez, mais dans cet esprit d'abandon à Dieu, et pas se culpabiliser en disant « moi, je ne ressens pas », on peut quand même faire... Est-ce qu'on peut faire des efforts? Vous me confirmez qu'on peut faire des efforts?
Tous les deux, on peut faire des efforts, et on est obligé de faire des efforts. Ou alors, de temps en temps, il peut y avoir une grâce particulière, mais en fait, pour l'homme, il y a l'effort de ne pas aller trop vite et de prendre le temps de réveiller sa femme et qu'ils arrivent à un même rythme. Moi, je trouve ça super chouette que ça soit pas le même rythme, justement, parce que ça oblige ce dialogue qui fait que le mari, il attend que la femme soit réveillée et la femme, elle fait l'effort de s'éveiller, ce qui est souvent un effort quand il y a la fatigue, les enfants. Ça oblige à un dialogue. Et donc, on se retrouve une personne en face d'une autre personne et non pas une personne avec un objet. Ce travail d'aller l'un vers l'autre et de respecter le rythme de l'autre, donc pour la femme d'encourager son mari, le mari d'attendre sa femme, etc. Tout ce dialogue, pour moi, je trouve ça très, très riche et difficile au départ. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont réussi du premier coup. Nous, on a mis du temps à établir ce dialogue. Et c'est nécessaire et je trouve ça très beau que c'est chez la femme en tout cas c'est jamais pareil. C'est-à-dire qu'on peut pas se dire ah, ça a super bien marché, la prochaine fois on refait pareil, et ben non. Et la prochaine fois ça ne marchera pas de la même façon et c'est génial parce que ça oblige à un dialogue et voilà, on est une personne en face d'une personne et on grandit dans l'amour, la confiance.
Ce qu'on peut dire peut-être c'est que quand on se retrouve, le soir et on n'est pas dans le même état de désir, on n'est pas dans le même état de fatigue, de disponibilité l'un à l'autre, et qu'en fait ce qui compte c'est pas est-ce que c'est mon désir qui va faire que je vais me tourner vers mon mari ou est-ce que c'est parce que je l'aime que je me tourne vers lui, et en fait ce n'est pas dans le sens du devoir, il y a un petit peu cette notion je te prête mon corps, mais en fait, c'est complètement différent. En fait, c'est rentrer dans ce don où je m'offre à toi parce que je t'aime, et je m'offre tout entière à toi, même si peut-être aujourd'hui je suis un petit peu fatiguée parce que je t'aime, et que ce qui est important, eh bien, c'est que notre amour puisse se rejoindre et grandir ensemble dans cette communion.
C'est ce que je comprends bien, Anne-Claire et Philippe. Vous avez mis du temps à vous dire l'état dans lequel vous étiez.
Je trouve qu'au début, moi j'étais élevée comme une petite chrétienne scout qui a. Bon, j'ai pas eu une grosse tentation pendant mon adolescence il y a 40 ans, donc c'est vieux. À cette époque-là, on avait moins de tentations que maintenant. Et du coup, je suis arrivée aux fiançailles avec zéro expérience. Je n'allais pas au cinéma, je ne savais rien. Et j'ai découvert ma faiblesse dans les fiançailles. Tu ne savais rien, toi non plus. Et en fait, quand je me suis retrouvée fiancée à Philippe, je me suis dit, ah ben tiens, je suis faible, je ne savais pas. je ne savais pas avant. Donc je me suis retrouvée affrontée à ma faiblesse et je me suis dit, mais zut, alors j'ai été voir un prêtre, je lui ai dit comment on fait. Alors il me dit, rien avant le mariage. Zut, c'est pas, je suis pas capable de plus le toucher avant le mariage, comment je vais faire? Donc je me suis dit, c'est pas l'église qui va m'aider. À l'époque, je me suis dit ça. Et en fait, c'est vrai qu'à l'époque, on avait rien. Hein. Donc, alors moi, comme je suis entêtée, j'ai cherché partout, j'ai lu des livres, j'ai lu Alphonse Dédi, j'ai lu plein de choses. Et du coup, je me suis dit, tiens, tout le monde n'est pas d'accord, même dans l'église, on peut faire quand même quelque chose. Et il a fallu changer de mentalité. Donc, une fois mariée, ben, il a fallu aussi du temps pour découvrir. Moi, je me dis, les fiançailles, on n'avait pas découvert. Après, on avait découvert certains aspects de nos faiblesses et de nos misères, mais on ne connaissait pas. Après, dans les premières années du mariage, on se retrouve à expérimenter sans aucune expérience l'union conjugale. Ben, voilà, moi au début je me disais zut, comment ça marche quoi, c'est pas si évident que ça. Enfin, on n'était peut-être pas très futés, mais il a fallu du temps et de dialogue, etc. Pour ça t'étonne que ça soit pas du premier coup. Mais c'est vrai, sans expérience, sans, je me dis, moi mes enfants, je leur ai expliqué beaucoup plus. Hein. Même dans le fonctionnement de l'acte conjugal lui-même. On vous dit la biologie, ça je savais, bien sûr. Moi j'avais eu des cours d'éducation sexuelle dans les bouquins de sciences naturelles, mais c'est autre chose, l'acte conjugal quand même. Et là, il a fallu du temps, et au début on était un peu paumés. Hein. Voilà.
C'est pas à ça que je pensais plutôt au fait que tu n'hésites pas à dire quand tu es fatigué, que c'est un effort pour toi.
Ça veut dire... Ah oui.
Oui.
Bah oui, oui. Il y a un effort à faire, hein, que de temps en temps. Moi, je sais pas.
Tu le dis.
Ah oui, je le dis, oui.
Et moi, j'ajoute que dans ce genre de situation. Dans ce genre de situation, ça demande un certain acte d'humilité de l'homme, de se dire, ma femme veut se donner et elle n'est pas du tout prête, donc il faut franchir cet obstacle dans la tête. Pour dire, ben, elle veut, mais pour l'instant, elle ne peut pas. Et c'est à moi d'aller au charbon, quelque part. C'est bizarre. Enfin, je ne sais pas s'il me fait comprendre. Il y a une espèce d'humilité, parce qu'en même temps, voilà, bon, je ne sais pas comment le dire, je le dis mal.
J'aime bien l'expression aller au charbon.
Moi, j'ajouterais aussi, enfin, parce que j'ai mis du temps, moi, à le découvrir, c'est de parler. C'est d'en parler. C'est pas forcément si évident, enfin, en tout cas pour moi ça ne l'a pas été.
Moi j'entends beaucoup de personnes me dire qu'elles ne parlent pas du tout. Je connais une femme me dire que elle a pu partager toute sa vie sexuelle avec son mari sans jamais en dire un mot. Et donc les non-dits, les silences sont préjudiciables à la rencontre avec l'autre. Et je crois qu'il est aussi nécessaire de prendre le temps aussi de s'écouter soi-même pour savoir où on en est et pour pouvoir le dire à l'autre. Là, c'est quand même un travail d'écoute et de soi et de l'autre. Et un travail d'écoute du corps, en profondeur.
Bien, je vous remercie pour ces témoignages. Moi, j'avais été touché quand vous m'aviez dit que... Quand Claire disait que c'était difficile pour elle de le vivre, qu'elle n'était pas tout à fait dans le meilleur état, ça ne faisait qu'augmenter la tendresse avec laquelle Philippe vivait l'acte. Ça, apparemment, ça ne le blesse pas.
Je confirme.
Vous voyez comme quoi, si les choses sont de la vérité dite toujours dans ce même esprit de charité, avec le cœur, et bien la vérité, ça permet à l'amour de grandir. Alors, la dernière fois, j'avais fait allusion à ces comportements, comme on dit traditionnellement, contre nature, qui sont devenus presque naturels, comme la masturbation à Dieu, la fellation, la sodomie. J'ai vu qu'actuellement on parle plutôt de pénétration anale. Alors j'ai essayé de réfléchir dans mon cœur à ce qui pouvait être dit en dehors de cette sensibilité affinée par la connaissance de Dieu qui fait qu'on a un senti juste, instinctif. Qu'est-ce qui peut aider à comprendre pourquoi ces pratiques sont contre nature? Ben écoutez, je vais vous dire quelque chose de tout banal, de tout simple, mais vous savez bien qu'à la différence des animaux, hein, Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils s'unissent dans un face-à-face. Si vous réfléchissez à ce face-à-face, il signifie deux personnes qui se rencontrent. Dignité de personne. Et en même temps, dans l'acte conjugal, l'homme et la femme sont appelés à se connaître, comme il est dit dans la Genèse, à se connaître. C'est comme ça qu'on parle de l'acte conjugal. Adam et Ève se connurent. À se connaître l'un l'autre dans leurs différences, telles qu'elles s'expriment à travers le corps. C'est en respectant et en vivant pleinement cette différence qui peuvent s'accueillir et se donner pleinement l'un à l'autre. Le corps, ce n'est pas une matière neutre dont on puisse faire ce qu'on veut. Il ne peut pas y avoir d'union plénière, totale, en dehors d'un respect de ce qui est inscrit dans le corps, comme le chemin du don et de l'ouverture de l'un à l'autre. Je dirais que l'homme, la femme, comme je l'avais dit, à propos de la différence entre l'homme et la femme, a cette capacité, prédisposition naturelle à accueillir l'amour. Elle sait mieux que l'homme se laisser aimer. Et l'ouverture inscrite dans son corps en est le signe. Et donc je dis qu'en pénétrant son épouse par cette ouverture, l'homme l'épouse dans sa féminité. Se laisse accueillir par elle sans l'abaisser. Et de même, la femme reçoit l'homme dans sa masculinité. Encore une fois, ce qui fausse les choses, c'est qu'on a l'image du corps comme étant quelque chose que je pourrais modeler à ma guise, qui n'a pas de signification en soi. C'est le problème de fond de notre mentalité d'homme moderne. Et nous sommes tous influencés, nous sommes tous les enfants de notre époque. Et donc je redis ici que la sagesse consiste à obéir à notre Sainte Mère l'Église. Qui est une vieille dame qui se renouvelle tous les siècles. Benoît XVI a dit récemment qu'elle était de plus en plus jeune, au fur et à mesure qu'elle avance. Hein. Mais en même temps, c'est vrai qu'elle a de plus en plus d'expérience. Hein. Et qu'est-ce que nous dit l'Écriture ? Il nous dit que c'est en accomplissant la volonté de Dieu qu'on est éclairé. C'est-à-dire, Dieu nous demandera toujours d'obéir plus qu'on le comprend. Mon fils, accueille ma pensée, écoute mon fils, accueille ma pensée, ne rejette pas mon conseil. Engage tes pieds dans ses entraves et ton cou dans son collier. Il parle des préceptes de la sagesse, de la discipline. Car à la fin, tu trouveras en elle le repos et pour toi, elle se changera en joie. Voyez, les préceptes de l'Église se changent en joie quand on les comprend intérieurement. Mais pour les comprendre, il faut d'abord les mettre en pratique. À ce moment-là, ils ressemblent à des joues, ils ressemblent à des entraves, mais il nous est dit que ces entraves se transformeront en colliers, en parures précieuses. Quand on goûtera la vérité intérieure de ces préceptes, ta docilité te vaudra l'intelligence.
Parce que c'est vrai que dans les comportements désordonnés qu'on peut avoir, eh bien, en fait, on s'engage dans des voies qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas de... il faudra aller de plus en plus loin pour essayer de garder... Alors que en écoutant notre Sainte Mère l'Église, comme dit Louis, eh bien, on va vers une progression Il y a une joie de plus en plus grande, et il y a vraiment, même au niveau du plaisir, un plaisir beaucoup plus grand. Il n'y a pas de lassitude qui s'installe, et c'est bien fait, quoi. Donc, ça peut être difficile de perdre des mauvaises habitudes, parce qu'avec la culture actuelle, on n'a plus tellement de repères. On a vu beaucoup de gens lisent n'importe quoi, voient n'importe quoi, et du coup, on ne sait plus, on ne trouve plus les repères. Ce qui est génial de revenir dans le chemin que nous indique l'Église, c'est que c'est pas pour être frustré, au contraire, c'est pour aller beaucoup plus loin et être plus heureux.
Oui, et en même temps, cette obéissance passe par un combat, comme en matière spirituelle, enfin, ça fait partie du combat spirituel.
Je pense aussi que s'il y a des personnes qui acceptent de se livrer à ce genre de pratique alors qu'il y en a au moins un des deux qui n'est pas tout à fait à l'aise, hein, c'est souvent, il y a une fausse compréhension de l'amour du prochain, au sens où aimer l'autre, c'est pas chercher à lui plaire à tout prix, mais c'est chercher son vrai bien. Aimer dans la vérité, vous savez, c'est le titre de la dernière encyclique de 2016. Aimer dans la vérité du dessein de Dieu sur l'autre, vouloir son vrai bien, son bien intégral, au-delà de la faiblesse et de l'aveuglement de l'autre. Et donc, ça peut signifier donc le refus de répondre à un désir qui est peut-être, tout à fait sincère et spontané, où la personne peut-être ne voit pas du tout où est le mal, mais en réalité, accepter de porter le poids de son incompréhension, et accepter de vivre une certaine forme de combat aussi par rapport à ça, c'est en réalité un signe d'un amour plus profond.
Je pense aussi.
Je pense aussi qu'on peut se fourvoyer parce qu'on a des réelles difficultés à trouver l'harmonie. Et si on ne se fait pas aider, si on ne trouve pas, on peut avoir des problèmes, je ne sais pas, d'éjaculation précoce, de douleur, enfin, des problèmes au cours de l'acte conjugal qui fait que, si on n'en parle pas, si on ne se fait pas aider, on risque de partir dans des fausses pistes et chercher le plaisir ailleurs parce qu'on est déçu et on ne trouve pas l'harmonie. Donc c'est pour ça que nous, on pense que c'est très très important. On a vu beaucoup de couples retrouver l'harmonie et alors qu'ils étaient partis dans des fausses pistes par ignorance de leurs difficultés et que c'était possible de surmonter ça, etc.
Moi, je crois que ça peut effectivement être l'occasion d'un travail sur soi, parce que s'il y a des difficultés physiologiques, elles viennent parler de quelque chose de plus profond, et des difficultés parfois psychologiques. C'est pas pour rien qu'on est éjaculateur précoce ou que l'on est une femme qui peut être par moments rigide, donc qui a du mal à accueillir l'autre dans son corps. Et c'est important d'avoir beaucoup de considération pour ces difficultés, parce qu'effectivement, elles viennent dire quelque chose. Le corps parle, il vient nous dire quelque chose. Et si ça vient nous dire, c'est qu'on a quelque chose à écouter qui peut nous mettre sur une autre voie. Mais je crois aussi que ce qui est vraiment, ce qui compte, c'est aussi d'être dans une écoute, je le redis, et dans le respect de soi et de l'autre. Hein, on sent si un geste qui est ajusté ou pas. On sent si ça nous fait du bien ou pas. On sent si on est confort ou pas. Hein, d'essayer d'être le plus possible à l'écoute de soi et de son corps. Et si on n'y arrive pas, de se faire aider.
Par rapport à ces questions-là, je pose un principe de base qui est, j'allais dire métaphysique, non, pas vraiment, mais un principe philosophique, hein, c'est que la joie, elle est fondamentalement liée à l'union. C'est le fruit de l'union. C'est le premier fruit de l'union, la joie. Et donc, ce qui est à rechercher d'abord, c'est l'union des corps, en profondeur, la communion des corps. Je pense qu'on arrive à des déviations parce qu'on met la recherche de la jouissance en premier. c'est pas que il ne faille pas aussi quelque part rechercher la jouissance au sens de rechercher la capacité à jouir. Et Anne-Claire me disait juste avant, c'est important pour la femme notamment de trouver un chemin pour éveiller la sensualité. Mais en vue de quoi? En vue de bien vivre cette communion des corps. Parce qu'en réalité, la joie profonde dans l'acte sera donnée par cette communion des corps et des cœurs tout à la fois. Et à ce moment-là, on dépasse la question du simple plaisir qu'on peut se procurer par un aspect un peu de technique, de savoir-faire. Et on a une sorte de plénitude, à la fois qui intègre le plaisir physique, mais qui est intégré dans quelque chose de plus grand.
Oui, une déviation ou quelque chose qui me semble, moi, pas très juste, c'est par exemple d'essayer de faire face à une difficulté dans les lectures. Alors, on avait dans les références qu'on nous disait et que certains nous présentaient comme quelque chose qui ne les avait pas forcément tellement aidés, mais ils avaient plutôt ils avaient continué à patauger. On avait pris des bouquins, par exemple, il y a souvent un bouquin qui circule qui s'appelle Le Traité des caresses, bon, qui est très bien dans l'ordre de la sensualité, qui peut apporter un certain nombre d'éléments. Mais si on en reste là, on risque de tomber dans ce qu'évoque Louis. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui est tout à fait différent de ce qui est de l'ordre de l'union ou ce qui est de l'ordre du plaisir uniquement.
En fait, la force unitive la plus grande, elle est au niveau du cœur. C'est l'appétit de l'autre en tant que personne. Et c'est cet appétit spirituel, j'appelle ça une passion spirituelle, qui peut intégrer le reste des passions sensibles. Et si on ne trouve pas le chemin d'une vraie ouverture de cœur à l'autre, en réalité, tout ce que l'on fait a un petit côté au niveau du plaisir, un petit côté artificiel, au sens où il ne jaillit pas d'une union profonde dans une vraie rencontre de l'autre. Et c'est parce qu'on en arrive à un plaisir artificiel qu'on cherche des méthodes artificielles, contre nature. On est enfermé dans une logique qui n'est pas bonne. Moi, je dis, on rate la première marche, qui est l'union des personnes. C'est une question de sagesse, de comprendre l'ordre des choses, établi par le Créateur. Le Créateur lui-même a établi que cette fonction, la fonction sexuelle, hein, que dans cette fonction de génération, les époux éprouvent un plaisir et une satisfaction du corps et de l'esprit. C'est là où on peut parler en fait plus proprement de joie. Hein, ça, c'est un côté plus plaignier que simplement plaisir. Hein. Et donc, ici, c'est Pidous qui parle, qui dit qu'en recherchant ce plaisir, ils ne font rien de mal, et en jouissant, ils acceptent ce que le Créateur leur a destiné. Mais vous voyez, je dirais, une recherche du plaisir, en fait, pour pouvoir... qui accompagne et qui est en définitive elle-même quelque part au service d'une pleine recherche de la communion, corps qui suppose, comme le disait Anne-Claire, un éveil de la sensualité. Tout est mis au service à ce moment-là de la rencontre des personnes, y compris le plaisir.
Tu es sur la ligne de crête.
Je suis sur la ligne de crête. Oui.
Juste pour dire, nous, quand on a découvert justement cette dimension dont tu parles, spirituelle en fait, qui s'ajoute à la dimension physique, ça a été une vraie découverte pour nous et ça a vraiment démultiplié notre amour. C'est important en fait de savoir qu'on peut justement aller au-delà du plaisir physique et arriver à cette communion des cœurs en fait. Et quand on découvre ça en fait, moi ce que je vois bien, je me rends compte que à ce moment-là il me monte du cœur, enfin, moi il me monte du cœur après l'amour, comme une louange en fait parce que il y a le cœur qui s'y met en plus du corps, en fait.
Tout à fait.
On comprend ici la définition que donne le catéchisme de la chasteté. La chasteté signifie l'intégration réussie de la sexualité dans la personne. Par là, l'unité intérieure de l'homme dans son être corporel et spirituel. La sexualité devient personnelle, vraiment humaine, lorsqu'elle est intégrée dans la relation de personne à personne. Voyez, de pouvoir se donner à l'autre en jouissant de cette unité de notre être qui fait que, comme on disait la dernière fois, il y a certains gestes qui n'ont plus à être réfléchis, si je puis dire, en tout cas on n'est plus à l'appliquer un savoir-faire, mais les choses deviennent de plus en plus simples, spontanées et naturelles, parce qu'il y a cette intégration. Et ça, c'est une question d'unification de la personne, et c'est un long chemin. Il faut accepter que ce soit un long chemin. Et vous voyez, ce chemin d'unification de la personne en vue d'un don dans lequel toutes les dimensions de l'être sont intégrées à partir de ce centre qu'est le cœur, ça fait partie de notre chemin de sainteté, parce que, cette chasteté, au sens d'une intégration de notre sensibilité dans notre personne, enfin dans cette unité de unification de l'être, elle joue au-delà de l'acte conjugal. C'est tout un état finalement de liberté et de simplicité, comme le dit Jean-Paul II à un moment. Hein. Avec le temps, et dans la mesure où l'homme suit avec persévérance le Christ, il ressent toujours moins à l'intérieur de lui-même le poids de la lutte contre le péché. Hein. Il peut se mouvoir avec une liberté toujours plus grande. Hein. Également, dans cette liberté, il jouit de cette liberté, de cette simplicité face à l'autre sexe. Ici, je pourrais témoigner en tant que prêtre, en tant que célibataire, de sentir cette liberté, cette simplicité, de ne pas se sentir tiraillé, tout ça, de sentir cette unification de la personne est une grande joie. Mais ça a été pour moi, en tout cas, le fruit de tout un travail en profondeur sur moi-même, je suppose, équivalent à celui que vous devez vivre pour vivre vraiment dans l'amour toute la relation, notamment la relation sexuelle. Sous cet angle-là, vous voyez, la relation sexuelle est très intéressante parce qu'elle met en évidence les problèmes d'unification, d'intégration. Donc, quelque part, elle oblige à ce travail. Nous, comme célibataires, c'est le problème d'unification, il est mis en évidence aussi le fait de la difficulté de vivre le célibat dans un monde qui nous provoque continuellement, donc pas d'occasion de travailler sur soi. Mais le terrain pour les couples, c'est privilégié, c'est la relation sexuelle, on reviendra à la fin, qui met à nu les choses, tout le sens du terme. Alors, en même temps que je continue à prêcher la sainteté de la sexualité, je ne peux pas non plus ne pas quelque part regarder la profondeur du péché. Il n'y a pas que la question d'une recherche égoïste, d'une jouissance immédiate, qui fait que on fait de l'autre un objet de plaisir, et que déjà on peut aussi tomber soi-même dans le fait de se laisser utiliser. Il y a un double péché au niveau de la jouissance, c'est de réduire l'autre à un objet de jouissance, mais aussi des péchés, le fait de se laisser réduire à être un objet de jouissance. Ça s'appelle la faiblesse.
C'est pas pour rien si on se laisse réduire à un objet de jouissance. Hein. Ça parle de quelque chose de précis dans son histoire, et je voudrais quand même insister sur le fait que dans la sexualité et dans la relation sexuelle, se joue beaucoup de choses au niveau de l'inconscient, et que tout n'est pas clair pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que l'on vit qui sont inconscientes, et notamment les fragilités que l'on porte en soi, que l'on porte en soi et qui nous viennent du moment de plus tendre enfance, hein, de ce lien archaïque avec notre mère, comment les choses se sont passées, est-ce qu'on a reçu une sécurité de base ou pas. Et il est vrai que de ce moment-là dépend quand même beaucoup de choses dans notre façon de vivre notre sexualité. Si on a manqué, si on a eu une maman ou la personne qui avait la fonction de maman, si elle n'a pas été proche, si on était dans le manque, on peut se sentir fragilisé. Et dans sa vie d'adulte, on peut par la suite avoir peur de la relation sexuelle parce que on peut avoir peur de se perdre dans la relation. On peut avoir peur d'être pris sous le pouvoir de l'autre. Et de fait, de cette peur, et bien effectivement, on va mettre l'autre sous emprise, ou on va soi-même rester sous emprise. Donc, si on est dans ces situations-là, ce sont des situations qu'on n'a pas choisies, très souvent, et qui parlent de la relation qu'on a eue avec l'un de nos parents, et qui demandent d'être éclairées. Donc, toujours cette question, qu'est-ce qui fait que je suis sous emprise? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de mettre l'autre sous emprise? Qu'est-ce qui fait que je me trouve dans un lien de dépendance? De quoi ça parle?
Donc, je distinguais une chose. Une chose par rapport à la manière de vivre le plaisir, hein, où si peur de déplaire, on se laisse réduire à être objet de plaisir. Et donc, notamment dans des pratiques contre nature. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi, il n'y a pas que l'esprit de possession qui contamine la relation. Mais il y a aussi l'esprit de domination, au sens ici, là c'est le confesseur qui parle, hein. L'emprise, la jouissance mauvaise que l'on peut ressentir, que l'on peut vivre, avec une forme de perversion, en fait, à avoir une emprise de plaisir sur l'autre, au sens où on est celui qui le fait jouir. J'ai connu des femmes qui étaient vraiment accros à des hommes qui pourtant clairement ne les aimaient pas, mais qui avaient été, mis sous dépendance, une dépendance aliénante et humiliante par rapport à la jouissance, par le savoir-faire, sans amour. Mais qu'on puisse être à ce point dépendant de la jouissance sexuelle et être accro et finalement se retrouver dépendant de quelqu'un qui nous fait jouir et que l'autre jouit de faire jouir l'autre dans le sens d'une dépendance, à lui, ça, on touche la perversion. Je ne veux pas rentrer plus dans le détail, mais je pense à des situations vraiment où on sent la présence de celui qui pervertit tout, qu'il y ait un besoin de faire jouir l'autre, oui, qu'il y ait une joie pour l'époux de sentir qu'il fait jouir son épouse, oui, mais sans qu'il s'y mêle un besoin de dominer et de rendre l'autre dépendant de soi. Voyez. Là, c'est pas l'esprit de possession, mais c'est l'esprit de domination, une certaine forme d'orgueil. Y a aussi des femmes qui savent très bien rendre l'homme mendiant de leur corps. J'insiste pas plus, hein, mais je veux dire que la sexualité n'est pas faite pour être un lieu de règlement de compte et de chantage. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, dit saint Paul, si ce n'est d'un commun accord. Mais de voir que... je crois que les femmes sont quand même assez douées pour faire sentir qu'elles ne sont pas contentes en mettant l'homme à la diète. Et ça c'est jouer avec le feu, hein. Vraiment, en tant que prêtre, que pasteur, je dis, halte, s'il y a un problème de fond, on en parle et on essaie d'avancer, mais on se fait pas, on sait pas, encore une fois, la sexualité, elle n'est pas faite pour être le lieu de règlement de compte. Et c'est à ce niveau-là que la notion de devoir peut être salutaire, même si le terme n'est pas très... très jouissif. Mais moi, comme je dis souvent, alors ici vraiment comme confesseur, je dis, votre mari ne s'est pas marié pour mener une vie de moine. Généralement, les femmes comprennent. Il y a une question de justice aussi.
Si tu ne peux pas vivre ça sans vivre le pardon, quoi. Parce que, enfin, le devoir conjugal sans le pardon...
C'est vraiment le devoir.
Ça devient vraiment le devoir.
Enfin, j'ai quand même besoin de dire qu'il n'y a pas que les femmes qui sont dans ce processus-là. Moi, j'entends régulièrement que les hommes savent faire ça aussi et qu'il y a de la souffrance de part et d'autre. Et c'est là... Il s'agit d'être à l'écoute. Si ça commence, si ces jeux-là se mettent en place, ça vient dire quelque chose dans le couple. Hein. Si la sexualité sert à régler des comptes, et c'est là où peut-être il faut s'interroger et oser en parler. Ça, je crois que c'est vraiment, vraiment important, c'est de remettre, d'oser dire les choses, hein, de prendre du temps, de prendre de l'espace pour ça, même si c'est difficile.
Oui, donc on a besoin, l'homme a naturellement besoin de sentir qu'il procure de la joie, de la jouissance à son épouse, mais ce n'est pas la même chose que de la rendre dépendante de sa manière humiliante et aliénante. Bon, mais c'est le cas que je décris est relativement rare, mais suffisamment grave pour que j'en parle quand même. Alors, Josiane insiste beaucoup sur les blessures liées au père et à la mère, mais on peut remonter plus loin encore, à la blessure originelle, puisqu'on voit dans le récit de la Genèse que la conséquence immédiate du péché originel, c'est « ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi ». Ça, vous voyez, il y a donc une racine à cet esprit de possession et de domination au niveau de la sexualité, que j'ai essayé de décrire là, hein, qui remonte donc au péché originel lui-même. D'où l'intérêt de ce combat sur ce terrain-là, au sens qu'on est amené finalement à aller très loin dans la conversion. Parce que la racine est très profonde. Alors, il y a un aspect qui peut être traité psychologiquement, mais aussi il y a un aspect qui doit être traité en profondeur, c'est-à-dire, finalement, c'est cet esprit de domination et de possession, dont on a parlé beaucoup l'année dernière, trouve sa racine dans le péché originel lui-même. Donc c'est là aussi que je dis que c'est important de prendre le terrain de la sexualité comme un terrain, je dirais, privilégié de sanctification. Et pour ça, dans la vérité, le dialogue l'un avec l'autre, pour arriver à dépasser tout ce qui peut pervertir la relation. Je rajoute une chose, c'est que la chasteté, c'est pas la chasteté pour la chasteté. C'est pas jouir d'une maîtrise de soi. Mais, comme dit le catéchisme, la maîtrise de soi est ordonnée au don de soi. De telle manière qu'on puisse en réalité, en se possédant soi-même, on peut s'abandonner davantage. On ne peut abandonner à Dieu que ce que l'on possède. Donc c'est une unification de soi, non pas pour maîtriser les choses qui risquent de nous durcir, mais une unification de soi pour au contraire pouvoir s'abandonner dans la relation. Se livrer avec plus de liberté et de spontanéité. Oui ?
Lorsqu'on parle de maîtrise de soi, est-ce que c'est vraiment de la chasteté ou on est plus au niveau de la continence ?
Quelle est la
différence ?
Non, la question de savoir si quand on parle de maîtrise de soi, on est plus au niveau de la chasteté ou de la continence. On est au niveau de la chasteté elle-même aussi, au sens précisément de cette unification, l'intégration de la sexualité dans la personne, hein, qui fait qu'on est plus en possession de tout ce que signifie la sexualité dans le corps. On n'est pas tiraillé entre ce qu'on voudrait vivre et ce que nos instincts nous font vivre. Voilà, et je rajouterai une chose aussi, c'est qu'il faut se garder de dire « je suis chaste ». C'est-à-dire, dès qu'on crie victoire, le malin, il nous attend au tournant. Est-ce que ma réponse a répondu...
À la première question, oui. À la seconde, non. Quelle est la différence entre la continence et la chasteté?
Mais la continence, c'est la forme que prend la chasteté quand on ne peut pas avoir de relation sexuelle. Chasteté englobe tout. Moi, je vis dans la chasteté, vous aussi, chacun différemment. La chasteté, c'est une intégration de la sexualité dans la personne qui fait que la sexualité est vraiment mise au service du don de soi. Bon, ben, elle l'est pour moi en tant que prêtre. La continence, c'est quand on s'abstient de relations sexuelles dans la chasteté, finalement. Si on s'abstient, on est dans le...
Hein? Et notamment pour la régulation des naissances.
Avec la question de la régulation des naissances. Et on reviendra sur ces questions chasteté et continence quand on traitera de la question de la contraception. Là, on va être obligé de conclure, je crois, malheureusement. Mais je voudrais aussi dire que le fruit mûr de la chasteté, c'est la tendresse. La capacité de développer d'une sensibilité qui est de plus en plus pénétrée par l'amour divin et donc de plus en plus épanouie, et d'une capacité de trouver des gestes aussi qui ne se limitent pas à l'union des corps, mais qui savent, je dirais, exprimer l'union d'une manière dans le quotidien de la vie. En fait, c'est toute la relation conjugale qui devrait être baignée de tendresse. L'acte conjugal lui-même devrait être le sommet de la tendresse. On accepte de s'arrêter là ou... Écoutez, je termine simplement en rappelant que le mariage, c'est un sacrement. C'est-à-dire un signe, aussi parce que le corps est révélateur. Le corps ne ment pas. Le corps fait parler ce qui est caché. Et donc, encore une fois, l'immense avantage de la sexualité, c'est qu'elle met à nu l'homme et la femme. Non seulement l'un devant l'autre, mais chacun devant lui-même. Qu'elle est révélatrice des tensions, des griefs, Josiane le disait, des blessures archaïques, et que donc toute la sagesse consiste à vivre jusqu'au bout l'appel à faire une seule chair, pas dire « Dieu suffit et je trouve en Dieu la joie la plus profonde, donc je peux m'accepter, je dirais, une sexualité mal vécue », mais au contraire, se dire « Cette sexualité, avec ses difficultés, va me permettre de faire un travail sur moi-même, plus profond encore, pour une union encore plus profonde à Dieu, et pas simplement au conjoint. Ça suppose, encore pour terminer, ça suppose que tout soit vécu, pas seulement la vérité par rapport à soi, mais la vérité par rapport à l'autre, c'est-à-dire ça va ensemble. Hein. Travail de vérité sur soi, on ne le fait pas simplement en monologue. Travail de vérité sur soi, je peux en témoigner, pendant des années j'ai lutté avec moi-même au niveau affectif et tout ça. On a besoin d'en parler. Parler avec le conjoint, c'est vous confesser quotidiennement, aussi quelque part. Vous voyez, c'est le même travail que la confession, c'est l'aspect de l'aveu de dire les choses. Pour aller plus loin dans la lumière, plus loin dans la conversion. L'avantage, c'est que vous êtes deux. Vous pouvez parler, vous en avez un qui est là dans la vie quotidienne, qui vous voit, qui peut vous dire ce qui va mal, qui ressent dans son corps ce qui n'est pas juste quelque part, et tout ça. C'est comme ça qu'on s'accompagne l'un et l'autre vers le ciel. Je dirais, enfin, et je termine par là, que la relation conjugale, elle est pour signifier, quelque part, la relation de l'âme avec le Christ, hein, avec Dieu. Et donc, les difficultés au niveau sexuel, en profondeur, nous renvoient quelque part à la capacité que nous avons à nous livrer à Dieu lui-même, à nous laisser aimer par Dieu, à nous abandonner à lui, à l'accueillir, tout ça en profondeur s'agit. Il n'y a pas que ça renvoie simplement aux blessures du petit bébé dans le sein de sa mère, mais ça renvoie plus profondément aux blessures de l'enfant de Dieu que nous sommes dans sa relation au Dieu époux. Et ça, c'est très précieux. Même si on ne perçoit pas tout de suite dans le concret comment cette analogie fonctionne, mais c'est une analogie réelle. Je dis qu'il n'est pas incongru de prier avant de vivre l'acte conjugal, mais voyez dans quel sens, c'est-à-dire précisément dans cette optique-là, où on sent que grâce à la relation à Dieu, il va y avoir une ouverture, un abandon de soi, une livraison de soi en profondeur rendue possible par le fait de réveiller ce qu'il y a de plus profond en nous. Ce qu'il y a de plus profond en nous, c'est la relation à Dieu, il ne faut pas l'oublier. Et qui va permettre de vivre davantage cette intégration du sensible dans la réalité du cœur. Et ne pas le vivre comme une obligation d'une prière qu'il faudrait faire avant pour que Dieu soit d'accord, parce qu'on prie. On met Dieu, et puis une fois qu'on a mis Dieu, on peut passer au reste.
Voilà. Ouais. Et garder la spontanéité, quoi.